pas faire cette prière ensemble pendant que l'équipe de louange, vous pouvez regagner vos places. Dites pour ceux qui ont la foi avec moi, dites avec moi tous ensemble, Seigneur Jésus, parle-moi. Je veux saisir ta main à travers ta parole. Je veux saisir ce que tu as pour moi à travers ta parole. Amen. C'est béni et Dieu vous a exaucé. C'est une prière selon la volonté de Dieu. Donc je crois réellement que le Seigneur a vraiment une parole de vie et de délivrance pour vous avec ce thème alerte, ne quitte pas ta place. Et c'est vraiment un message que j'ai reçu dans mon cœur pour nos vies, pour ma vie déjà personnelle. Mais je crois réellement que Dieu veut que je le libère ce soir, sans plus tarder. Juste ce premier texte, Ecclésiaste 10, verset 4, nous dit « Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. » Si l'esprit de celui qui domine, ça peut être un leader, ça peut être ton responsable, ça peut être au travail un supérieur hiérarchique, mais ça peut être aussi des pressions de la vie, quelque chose qui te domine, qui t'écrase. Ne quitte pas ta place, car le calme prévient de grands péchés. Et on va le découvrir à travers ce partage, que prendre la bonne position, c'est indispensable. Et combien de fois on a pris de bonnes résolutions? Combien de fois on sait au fond de nous, c'est des bons choix. Mais le plus dur, ce n'est pas de faire toujours le bon choix. Le plus dur, c'est de garder le bon choix qu'on a fait. Le plus dur, c'est de garder la bonne position, de garder la bonne disposition du cœur. Parfois, le plus dur, c'est pas juste de combattre. On dit, ouais, le combat. Le plus dur, c'est pas juste de combattre. Lorsqu'on parle avec des gens qui ont fait l'armée, on est dans une ville où réellement il y a beaucoup de militaires. Lorsqu'on parle avec des militaires, c'est pas toujours le combat qui est le plus compliqué. C'est pas toujours être dans une zone. Et peut-être vous êtes dans une zone de combat aujourd'hui, dans cette saison. Mais le plus compliqué, c'est de garder la bonne position, là où Dieu vous a placé. Et de croire que là où Dieu m'a placé, c'est là où j'aurai la victoire, c'est là où j'aurai la percée. Ce n'est pas parce qu'un positionnement est inconfortable que tu dois réellement le quitter. Et je disais tout à l'heure que parfois Dieu lui-même nous place dans des situations inconfortables. Mais garde ta place. Tant que Dieu ne t'a pas déplacé, garde ta place. La croix était inconfortable. Et même lorsqu'on est venu chercher Jésus, c'était inconfortable. Pierre voulait rendre la chose plus confortable. Il a sorti l'épée. Et Jésus lui a dit, celui qui va utiliser l'épée va mourir par l'épée. Et Jésus a demandé à Pierre de garder. Il dit, si je voulais, je pourrais même demander 12 légions d'anges. Si Jésus voulait, il pouvait même quitter la croix. Si tu avais la puissance que Jésus avait, et tu l'as, est-ce que tu l'utiliserais pour quitter ou pour rester? Jésus a choisi de rester. La volonté de Dieu, c'est de faire, la volonté de Jésus, c'est de faire la volonté du Père. Et ça, il se disait, en restant, il faisait la volonté du Père. Et si toi, Dieu te donnait la porte, il ouvrait une porte à côté. Et tu sais que si rester, c'est le choix de Dieu. Mais il y a une porte qui est ouverte. Est-ce que tu vas la prendre? Ou tu gardes ta position? Ou tu gardes le focus? Ou tu gardes les yeux fixés sur Jésus? C'est pour ça que la Bible dit de garder nos yeux fixés sur Jésus. Le problème, quand tu cherches une porte tout le temps, tu ouvres et tu prends n'importe quelle porte. Mais quand tu regardes et tu as des yeux fixés sur Jésus, tu restes là où Jésus t'a dit de rester. Ne te pose pas la question toujours si la porte est ouverte ou pas. Pose-toi la question, est-ce que tes yeux sont sur Jésus? Tu ne te tromperas jamais si tes yeux sont sur Jésus. Mais tu commences à chercher une issue de secours. Il y a de fortes chances que tu sortes du plan de Dieu. C'est pas parce que tu vois l'issue de secours que tu dois courir. Seigneur, aide-moi à ce que mes yeux soient toujours fixés sur Jésus. Parce que si tes yeux sont sur Jésus, quand Jésus se déplace, tu te déplaces. Quand Jésus est là, tu es là. En fait, tu es là où Jésus est. Mais quand tes yeux sont sur une autre porte ou sur des opportunités, Jésus est peut-être là, l'opportunité est là-bas. Et tu changes de place. Si celui qui t'a placé est Dieu, alors celui qui doit te déplacer, c'est lui, c'est Dieu. Et trop souvent, en fait, c'est les circonstances qui nous dirigent. On va être honnête. Trop souvent, c'est pas Dieu qui nous dirige. Trop souvent, aïe, ouïe, ouïe qui nous dirige. C'est le aïe qui te dirige, c'est le ouïe, ça fait trop mal. Mais c'est pas Dieu, c'est pas le Saint-Esprit. Cela nous arrange de dire que Dieu n'est plus dans l'affaire. Parce que ça devient difficile. Et pourtant, même si c'est difficile, même si c'est fragile, Dieu est là. Et je vais vous donner une réponse, une clé, j'aime pas le mot clé, mais vous allez comprendre. Que je découvre de plus en plus dans la substance. Ne prends jamais de décision, même quand c'est difficile. Tant que ce n'est pas le Saint-Esprit. La meilleure manière de prendre une décision de l'Esprit, c'est d'être sûr que c'est déconnecté aux circonstances. Oui, parfois Dieu va utiliser les circonstances. Mais si ce ne sont que les circonstances qui te poussent à te déplacer, alors il y a de fortes chances que tu as agi. En fait, tu as été... L'homme de Dieu, l'homme spirituel, ne réagit pas aux circonstances. L'homme spirituel réagit au Saint-Esprit. Qui peut utiliser les circonstances, oui. Il y a des saisons, et je t'annonce, tu vas pas peut-être m'aimer aujourd'hui, mais je t'annonce une vérité de Dieu qui te concerne parce que tu es là. Donc c'est pour toi, il y a des saisons où Dieu nous apprend à lutter, à s'accrocher, à tenir ferme, à tenir tête, à tenir bon, à demeurer, à persister, à persévérer. Nous, on aime bien les saisons où on connaît les délivrances. Où c'est facile. Il y a des saisons comme ça. Mais une des notions qui caractérise le plus le chrétien dans le Nouveau Testament, et même dans l'Ancien, on le voit, c'est caché, le chrétien est un soldat. Le chrétien est un soldat. Et même David, quand je dis même David qui n'est pas là, forcément la compréhension de ce que nous avons aujourd'hui du combat spirituel. Il disait, il exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Comment Dieu t'exerce? Comment Dieu va t'exercer? Je veux pas dire à mon coach sportif, je veux avoir plus de muscles, emmène-moi au McDo tous les week-ends. C'est pas un exercice pour te faire donner des muscles, vous comprenez? Mais nous on dit on est des soldats, je suis soldat de Jésus. Oui Seigneur, tu es le Dieu de combat, tu es le Dieu de victoire. Mais il y a des moments, Dieu doit tester ta résistance. En fait quand j'ai testé, il doit te bâtir pour que tu sois résistant. Il doit te bâtir pour que tu puisses résister, pour que tu puisses persister, pour que tu puisses être solide. Et pour ça, c'est pas toujours le diable. Arrête de chasser les démons, mais sois ferme. Mm-hmm. Arrête de dire au nom de Jésus que ça se calme. Dis Seigneur, rends-moi solide, rends-moi solide, rends-moi persévérant. Les vents viennent, oui ça souffle, il y a des scories qui tombent. Mais je ne tombe pas avec les scories. Il y a des choses qui tombent de ma vie, mais je ne tombe pas. Il y a des choses qui tombent autour de moi, mais moi je tombe pas. Je deviens ferme. Et en fait, tout à l'heure, pendant qu'on priait, j'avais cette image, comme une vision même. Et Dieu me montrait des couronnes. La Bible nous dit que Dieu va nous donner des couronnes de vie. Vous savez, parfois, on croit que les couronnes, ce sont des victoires. Les grades, c'est pas des victoires. Les grades, ce sont des persévérances dans le combat. La couronne que tu portes, c'est la persévérance dans le combat. C'est ça la couronne. La couronne, c'est quand c'est dur, tu persévères. Romains 5, verset 3. Bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire de l'espérance. Bien plus, nous nous glorifions. Une autre version va dire, peut-être tu n'as pas compris. Bien plus, nous sommes fiers de nos détresses. Tu as un truc qui t'arrive, quelque chose de terrible. Waouh! Dieu a jugé bon que je vive ça. Je suis fier. J'ai un potentiel de d'être gradé, d'être upgradé. Waouh ! Et Paul va dire, il dit, un homme spirituel, nous glorifions. Parce que regardez la séquence, c'est fort, hein ? Parce qu'il dit, l'affliction produit la persévérance. Et le mot persévérance, ou poménon, on en a déjà parlé, c'est réellement être sous le poids de quelque chose, ou pour être sous quelque chose de très lourd. Très très lourd, c'est là. Et méno, je demeure, je reste là, je ne change, je ne bouge pas. Ça m'écrase, ça m'étouffe, ça m'aplatit, mais je ne bouge pas. Parce que le Dieu qui m'a placé là, m'a pas déplacé encore. Et s'il m'a pas déplacé, c'est que peu importe le poids qui semble m'écraser, je suis assez solide pour vivre ça. C'est ça, persévérer. Persévérer, c'est oupo, mais non. Persévérer, c'est j'ai une pression, mais je reste là. Le pire qui puisse sortir, et c'est pas le pire. Vous savez, c'est quoi qui sort? C'est l'huile. C'est l'huile. C'est l'onction. Tu veux plus d'onction? Laisse Dieu ajouter un peu de poids. L'onction ne sort pas, ne coule pas, ne découle pas de toi devant une plage, devant une belle série où tout est, où la vie est en rose et il y a quelqu'un qui joue derrière. Et toi, tu dis, waouh, oui, bien sûr, vous comprenez, c'est une image. C'est pas dire que la vie avec Dieu, c'est tout le temps comme ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que il y a des saisons dans notre vie. C'est des saisons. Et peut-être elle est longue. C'est que l'onction, et la substance. Ces saisons sont là pour marquer quelque chose. Même dans le siècle présent nous le montre. Il n'y a personne, il n'y a aucun système éducatif qui te fait passer dans une classe supérieure sans examen. Allez voir les plus hauts là qui réfléchissent. Vous savez quoi, moi j'ai une super idée. Maintenant, on n'évalue personne. Maintenant, il n'y a plus des épreuves de fin d'année. Il n'y a plus de bac, il n'y a plus. Mais comment c'est? Comment toi-même tu sais? Il y a toujours ce système-là de pression qui va permettre à ce que ce qui est plus profond en toi puisse sortir. Et Paul va dire ceci, et dans l'esprit, c'est très spirituel, écoutez bien. Que tu puisses embrasser l'affliction aujourd'hui. Parce qu'il dit, quand tu es dans cette persévérance, quand tu es comme ça, quand tu te glorifies des afflictions, ça produit la persévérance. Et la persévérance fait quoi? La victoire. Donc la victoire là, c'est pas Dieu qui juste qui me la donne. Eh oui. La victoire, c'est Dieu qui te met la pression. Toi qui résistes, et tu l'as la victoire. Il y a des victoires et des percées disponibles qu'après avoir lutté et persévéré. Moi, je te dis, ta victoire là, elle s'en bat. Ta victoire là, tu es en train de persévérer. La victoire là. Et c'est ça avec Dieu. C'est-à-dire, il y a la pression, je persévère. Et automatique, en fait, moi j'aime la parole de Dieu parce que c'est pour ça qu'il dit, il faut être comme des enfants. Parfois, j'ai envie de racheter plein de choses. Donc, je me glorifie des afflictions. Pourquoi? Sachant que l'affliction produit la persévérance. OK. Ça a du sens. Le sport, machin. Mais parce que je persévère dans l'épreuve, j'ai la victoire. Dans l'esprit, c'est presque mathématique. Tu persévères, tu as la victoire. Tu persévères, tu as la victoire. Il y a un texte qui expose ce principe. Dans 2 Chroniques 20, on va lire tout à l'heure, mais j'ai oublié de la fin, je me rends compte. La victoire produit quoi? Vous vous souvenez? Non? L'espérance. L'affliction. Aimer l'affliction. Dis, je me glorifie, je suis fier de mes épreuves. Ça produit de la persévérance. Au lieu de dire, ça produit de, tu vas être bas. Mais si tu embrasses ça, tu vas produire la niaque. Et quand tu produis la niaque comme ça, tu produis la persévérance, ça produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit quoi? L'espérance. Donc, ceci explique cela par un système de parallélisme mathématique. Si tu as peu d'espérance, c'est que tu as peu de victoire. Si tu as peu de victoire, c'est que tu as peu de persévérance. Ta persévérance finira par produire de l'espérance. Et encore une fois, cette espérance-là, c'est pas juste « Seigneur, donne-moi ». C'est pour ça que je saisis l'espoir. Je saisis. C'est dur. Je saisis l'espoir. Parce que je suis solide. Tous les systèmes de défense, hein, enfin, j'imagine, j'ai pas étudié tout. Mais même, vous allez dire, ouais, le gars, il a fait un mois de sport, il se croit le plus grand sportif. Même dans le sport, même quand tu prends quelque chose de, qui te déstabilise un peu, la position, elle est importante. Fléchis un peu le genou, reste stable. Fais le mouvement. Et Dieu veut nous rendre stables. Nous, le problème, c'est que dès qu'il y a un truc, on va se déplacer. Écoutez bien, 2 Chroniques 20, verset 17. Vous n'aurez même pas à combattre. Ça, c'est yes. Là, c'est amen. Gloire à Jésus. Mais ça veut dire quoi concrètement? Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Gens de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien, ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Contente-toi de prendre et de garder ta place, position. Dieu va combattre pour toi. Ça veut dire quoi? Je ne fais rien. On va voir concrètement. Ça veut dire quoi? Parce que là, je dis, ben, ça veut dire quoi concrètement? Garder sa position, c'est quoi? C'est mystique, c'est quoi? On va voir. Calme-toi. Mais déjà, regarde ce principe. Si tu gardes ta place, si tu prends position, la suite dit quoi? Vous verrez l'Éternel vous délivrer. Ça veut dire quoi? Il y a des délivrances qui ne sont visibles que du lieu où Dieu t'a positionné. Comprends cela. En fait, il y a des moments où tu pleurniches parce que tu as quitté ta place. Tu as quitté ta place dans la voie de la louange, tu as quitté ta place d'adoration, tu as quitté ta place de la prière, tu as quitté de la place de rester juste là où Dieu t'a dit. Mais quand tu restes là où Dieu t'a dit, de là où tu es, tes yeux s'ouvrent et tu vois Dieu libéré. Du lieu, vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Tu veux voir ce que Dieu va faire? Reste là où Dieu t'a dit de rester. En fait, Dieu, là où il t'a mis, est un endroit stratégique pour que tu puisses voir Satan tomber comme un éclair. Tu ne vois plus Satan tomber comme un éclair parce que tu as quitté ta place. Reste là. En fait, ton lieu, peu importe le lieu que c'est, est un lieu spirituel. Ton positionnement où Dieu t'a dit reste est un positionnement spirituel qui t'ouvre les yeux et qui, en fait, c'est une loupe qui agrandit l'image, qui te permet de voir ce que Dieu est en train de faire. Et de là où tu es en train de voir la délivrance. Moi, je suis en train de dire et de parler à quelqu'un. Et je persévère. Je disais tout à l'heure à ceux qui étaient là pour la prière, ce matin je priais, je disais, Romarie, pourquoi tu pries? Parce que Dieu m'a dit, prie. Parfois, je sais pas pourquoi, je me rappelle, c'était une nuit, une fois, c'était à 3h du matin, j'étais là, mais à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? Et Dieu m'a dit, pourquoi je t'ai dit? Parce que tu dois prier. Et j'étais là, je savais pas quoi je chassais, quoi je combattais, mais je combattais. Au nom de Jésus, j'avais besoin de mon corps et de mes cordes vocales pour intercéder. Et c'est juste du lieu où j'étais. Et c'est là où je voyais la victoire. Parfois, tu n'as pas besoin de voir même le combat. Tu vois juste des percées. Tu dis, parfois, tu oublies même les connexions. Tu dis, ah oui, parce que j'ai fait juste ça. J'ai tenu ma place, j'ai tenu mon positionnement. Bam! Et Dieu te montre ce qu'il est en train de faire. Amen. Alors, comme vous êtes en train de bouillir, le concret. Avant, 2 Chroniques 20, verset 1. Parce que c'est dans ce contexte-là, le texte que je viens de lire, quand Dieu dit, contentez-vous de prendre position et de vous tenir là, c'est dans un contexte de menace de guerre. Vous l'avez compris. 2 Chroniques 21 nous dit, après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Et pourtant, dans ce contexte-là, Dieu va dire au peuple, prenez position, restez calme, tenez-vous là. Alors, du concret. Quatre caractéristiques d'un peuple qui ne quitte pas sa place. On va découvrir ensemble. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par ne pas bouger? Ça veut dire ne jamais prendre l'avion, ne jamais prendre la voiture. Première chose, premièrement, celui qui garde sa position poursuit ses réformes malgré l'opposition. Vous allez comprendre pourquoi. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe tout à l'heure. J'ai lu, après cela, les Moabites, les Ammonites ont fait la guerre. Mais pourquoi après cela? Après cela. Parce qu'il y a un truc avant cela. Toujours logique, hein? C'est, ça, c'est la révélation. Et on va lire avant cela qu'est-ce qui se passe. Donc, on a lu 2 Chroniques 20 où Dieu dit gardez position. Mais qu'est-ce qui se passe dans 2 Chroniques 19? 2 Chroniques 19. Josaphat se réinstalla à Jérusalem, puis il se mit à visiter le peuple depuis Beersheba jusqu'à la région montagneuse d'Éphraïm. Et il le fit revenir à l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Il établit des juges dans le pays, dans chacune des villes fortifiées de Juda. Et en fait, juste après, on peut le relire, 2 Chroniques 21. Donc, après 2 Chroniques 19, il y a 2 Chroniques 20. Après cela, bizarre, hein? Juste au moment où il motive tout le peuple à revenir à Dieu, il prend des décisions radicales, il rétablit les juges, il organise la nation pour que le peuple puisse suivre Dieu. Les Moabites, après cela, ils arrivent avec les Ammonites et d'autres, ils marchèrent pour déclarer la guerre. Comprenez bien ceci. Le diable a toujours allumé des feux dans nos vies pour ralentir, voire stopper les réformes que Dieu a initiées. Donc on a un roi, Josaphat, qui dit « Revenez, cherchez l'Éternel, je veux mettre une organisation spirituelle pour que vous puissiez maintenant, dès à présent, marcher. » Et Dieu est tellement « Waouh, c'est génial !» Et là, l'ennemi va allumer des feux, va venir, va menacer. Et on va le découvrir, en fait, Josaphat, lui, continue ses réformes. Donc je ne sais pas. Quels sont les changements que tu as arrêtés dans ta vie parce qu'il y a eu un peu de feu? Mais les feux là sont là pour voir. En tout cas, Dieu va permettre, même quand c'est l'ennemi qui le fait, Dieu va permettre que ce feu vienne pour voir est-ce que je vais continuer à obéir. Là, je suis en train de lutter avec une pensée qui est très, très humaine. Et quand je vous, parce que je finis par le dire, parce que je vais obéir au Saint-Esprit, vous, pour ceux qui comprennent, qui connaissent un peu l'histoire, vous allez dire, ah ouais, je comprends. Pour d'autres, vous allez dire, bah ouais, quand même, c'est la Bible. Cher Saint-Esprit, aide-moi. Dieu t'a dit, il faut que tu sois obéissant avec ta dîme et tes offrandes. Il ne faut pas parler de ça. Des pressions financières arrivent. Qu'est-ce que tu fais? Tu obéis, tu continues ou pas? Ça, c'est un cas concret. Pression financière, qu'est-ce que je fais? Je continue à obéir ou je désobéis? Quels sont les changements que tu as arrêtés? Quelles sont les réformes? Tu as pris des décisions pour réformer ta vie au niveau financier. Je dis, oui, les finances maintenant, Seigneur, c'est toi le maître, hein? Maintenant, virement d'abord, dès le départ, je dois m'a dit, d'abord, tu es le premier, hein. Pression financière. Ah, on va voir ça après. On va voir à la fin du mois s'il me reste quelque chose. Je vais réformer ma vie au niveau de la prière. Seigneur, c'est d'abord toi. Dès que le jour se lève, quand je me réveille, avant même, et moi j'ai dû faire cette réforme en passant, avant même prendre téléphone, avant même voir qui m'a écrit, avant même voir s'il y a le feu quelque part dans l'église, je veux te louer, te célébrer. C'est une réforme, ça. Hein? Pour certains, c'est pas. Pour moi, ça l'était, mais bon. Et là, je sais pas qu'est-ce que c'est. Hein? Pression dans l'église, des affaires à gérer. Il faut vite regarder ton téléphone tout le temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes focus ou pas? C'est des petits exemples comme ça. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que toute réforme sera testée par des circonstances qui viennent contredire les décisions que tu as prises. Dès quand tu vas sortir de ce lieu, l'ennemi lui-même va vouloir t'empêcher d'exécuter tes résolutions. Ça faisait, je sais pas si ça arrive qu'à moi. Tu as pris des réformes au niveau de ta sanctification. Une réforme qui est intéressante. Baisser son niveau de consommation alcoolique. Et là, bizarrement, tous ceux qui t'ont jamais invité sont saisis d'une grande générosité et veulent t'inviter. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, je parle des vraies choses. Mais c'est ça, garder sa position. C'est ça, garder sa position. Très facile, tu décides de faire un régime. Tu as des problèmes financiers. Bizarrement, dès que tu as décidé ça, bénédiction financière, tu peux t'acheter tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Transposons ça dans le domaine spirituel. Mais tout est spirituel. Parce que si Dieu t'a dit ça, peut-être qu'il a vu une maladie, il y a un truc que toi tu ne soupçonnes pas. Obéis. 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 Que rien, je dis bien rien, ne nous empêche de continuer nos réformes. Dis, Seigneur, on veut faire l'église autrement. Montre-nous, montre-nous. Eh, ben nous, on veut faire l'église autrement avec l'environnement qu'on connaît, avec les gens qu'on connaît. Bam, quelque chose se passe. Oh, ben, est-ce qu'on continue nos réformes? Ah, peut-être c'est un temps, peut-être il faut sécuriser les gens. Il faut en garder le plus. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Mais je sais une chose, que si je veux suivre le Saint-Esprit à 100%, personne ne peut servir Dieu tout en servant les hommes. Et Paul va le dire avec simplicité et humilité. Je ne serai pas serviteur de Dieu si je cherchais encore à plaire aux hommes. Donc les réformes, et on est dans un pays qui a connu des réformes, les réformes, ça crée toujours des catastrophes. Je suis en train de te dire quelque chose d'extrêmement précis pour ta vie. Dieu est en train de tester ta capacité à réformer ta vie malgré la pression, malgré le boulot. Tu as décidé d'avoir des temps de qualité avec ta femme. Bizarrement, tu as une promotion au travail. Tu fais quoi? C'est bizarre, hein? Depuis qu'on a dit avec mon épouse, on va prendre ça, on va sortir. Bam! Il me manque une soirée. Tu fais quoi? Si tu es poussé par le Saint-Esprit, tu gardes position. Si tu es poussé par les circonstances, tu changes tes plans. L'homme qui est poussé par les circonstances adopte toujours les plans aux circonstances. Mais celui qui est convaincu par le Saint-Esprit garde focus, garde position. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas toujours pourquoi. Mais le Saint-Esprit a dit « je fais ». Ok? Deuxième chose, un peuple qui ne quitte pas sa place, il décide de chercher Dieu face à l'opposition. Ça a l'air facile comme ça. Mais combien sommes-nous en train de passer plus de temps à pleurnicher qu'à prier? On va être honnête. Je dis pas qu'il faut, au contraire, on est dans une église, on parle de partager, d'ouvrir son cœur. Mais franchement, quand tu regardes ton téléphone, tu as passé plus de temps à appeler à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Quand est-ce que tu as appelé Dieu? Quand est-ce? Transforme tes appels en jeûne et prière. Il y aura, soit tu vas appeler moins, soit tu vas jeûner plus. Mais quelque chose va se passer. On va annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont déjà à Hatsatson Tamar. Oh ouais, merci Seigneur parce que je me suis entraîné à dire ça. C'est-à-dire, En-Gedi. Josaphat eut peur. Waouh, c'est bon ça. Mais qu'est-ce qu'il fait après? Et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Josaphat eut peur et décida de quoi? De chercher Dieu. Il n'a pas dit, il eut peur, il décide de s'enfuir. Il eut peur, il cherchait à rejeter la faute sur... On est des spécialistes. Hein. Il y a la menace, il y a des attaques. J'ai une saison de pression énorme. La première chose, c'est qui le responsable? Oh, si tu eusses été là, mon frère ne serait jamais mort. Oh, si tu avais été là, oh, si tu m'avais appelé, oh, s'il y avait des prophètes, oh, s'ils écoutaient la voix, j'aurais jamais vécu ce que je vis. Oh, si tu étais là, je pourrais aimer ma femme. C'est pas loin d'être aussi absurde, hein. Et parfois, on est comme ça. Josaphat eut peur et dit pas, oh mince, est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait? Il eut peur. Est-ce que... Non. Il eut peur. Et il ne cherche pas à élaborer une stratégie humaine. Qu'est-ce qu'il fait? On va chercher Dieu. Je comprends rien ce qui me passe. Seigneur, je comprends rien. Je suis fatigué. Mais remplis mon cœur de toi, Seigneur. Je crie à toi. Viens changer ma manière de voir. Je sens très bien. Moi, quand je commence à en vouloir à quelqu'un, c'est que je suis pas rempli de cet esprit. Et c'est bizarre, quand je prie, j'aime tout le monde. Tout le monde, il est beau, il est gentil presque. J'espère avoir un discernement qui s'aiguise. Mais vous comprenez ce que je dis? Quand vous sortez de la prière et que vous détestez quelqu'un, vous n'avez pas prié le vrai Dieu. Et quand il y a une pression qui est là, si ton réflexe c'est pas de chercher Dieu, mais c'est commencer à dire ok, mais non, on va voilà, un homme sage, comment je vais faire pour m'en sortir? Ok, on va faire ça, Josaphat, et c'est ça, garder son position, son positionnement spirituel, c'est ça, et de dire quand tout allait bien, j'étais là, je karabaria koroboché. Quand tout va mal, je karabaria bakoroboché au moins deux fois, voire trois fois. Mais je fais pas car, et puis je vais aller parler à plein de gens. En temps d'opposition, notre principal réflexe spirituel doit demeurer inchangé. Chercher Dieu. Chercher Dieu. Jacques 5, 13, c'est pas moi qui l'ai dit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qui fait quoi? Il prie. Va dire ça à quelqu'un, d'autre va dire, oh non, quand même, il aurait pu. Pas qu'il parle, hein, qu'on l'écoute. Je dis pas qu'il faut pas écouter. Comprenez ce que je dis? Mais il faut ramener les choses à leur place. Premier niveau, c'est est-ce que tu as prié? Après, on parle. Parce que moi, si je parle à quelqu'un, et quand je suis spirituel, hein, pas quand je suis, pas ça m'arrive, quand je, mais si je suis spirituel, je parle à quelqu'un qui n'a pas prié, il n'y aura pas d'impact. Quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? C'est très équilibré. Donc, ne dis pas à quelqu'un qui souffre, allez, réjouis-toi un peu. Ah, celle-là, tu es charnel aussi. La personne est dans la souffrance. Mais si quelqu'un souffre, tu peux lui dire, prie, tu es biblique. Tu te tromperas jamais en disant à quelqu'un de prier. Tu commences à te tromper quand tu commences à citer des versets bibliques, à le raisonner. Allez, bouge-toi un peu. Là, tu commences à être charnel. Mais jamais. Quand est-ce que quelqu'un dit, ah ouais, quoi, même, bah oui, bah, mais comme si je savais pas que j'allais prier. Non, mais le problème, c'est pas est-ce que tu le sais. Le problème, est-ce que tu le fais. Garde ta position. C'est pas, dis-moi ce que tu connais. Est-ce que tu appliques les versets bibliques? Garde ta position. Ne quitte pas ta place. Tu étais un homme de prière, prie. Tu étais un homme qui témoignait, témoigne. Tu étais un homme qui prenait soin, prends soin. Comme je disais la dernière fois, tu as une porte. Il y a toutes sortes d'affaires qui t'arrivent. La première chose, tu prends la tangente, tu n'entoures plus les gens. Et tu veux que la délivrance arrive. Oh, tu n'es plus à ta place. Il y a des moments, bien sûr, où Dieu va te dire, repose-toi, renouvelle-toi, fais une pause. C'est Dieu qui te le dit. Et quand Dieu te le dit, c'est bon. Tu sens même beaucoup d'amour. Tu n'es pas culpabilisé parce que tu sais, c'est un temps de repos. Et vous savez que nous, il y a un an, plus d'un an et demi, on est parti, on a à La Réunion, on a 4 mois de formation sur l'île. Comment les roches étaient constituées, le volcan. On s'est formé à tout ça. Dieu, parfois, va t'envoyer des saisons de formation, de correction. C'est Dieu. Il y en a qui sont des spécialistes. En fait, on est dans la performance. On s'auto-corrige. Dis, vous savez quoi? Je me suis loupé et je m'inflige une discipline. Ça, c'est toujours quelqu'un qui te met en discipline, hein, c'est jamais toi-même. Ceux qui quittent leur place se mettent eux-mêmes sous discipline. C'est bizarre, hein? Parce qu'on refuse la correction de Dieu. On veut s'auto-corriger. On prouve par Dieu, tu vois Dieu, comment je t'aime. Hein. Comme il y a cette situation de ma vie qui n'est pas réglée, alors je m'auto-corrige. Garde ta place. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Si Dieu te dit, ok, si Dieu te dit, mais cherche Dieu. Cherche Dieu. Tu souffres, brille. Rien que ça, bam. Troisièmement, et on l'a chanté, je crois, et où on va le chanter, où je l'ai entendu dans l'esprit. Il continue à s'appuyer sur les promesses de Dieu face à l'opposition. Qu'est-ce qu'il va dire Josaphat? Deux Chroniques 20, toujours, alors que Dieu a dit garder position. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Il est en train de rappeler les promesses. Seigneur, on m'a dit qu'on va m'attaquer. Ils sont là, ils sont en train de menacer. Mais toi, tu as dit que c'est ma terre. Il rappelle, c'est ta promesse. Le pays où je suis, c'est à toi. Et un peu plus loin, il dit, si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste, la famille, nous nous présenterons devant ce temple. Et toi-même, tu l'avais dit, et devant toi, car ton nom réside dans cette maison. Nous crierons à toi du fond de notre détresse, et tu nous écouteras et nous sauveras. Il est en train de rappeler la prière de Salomon, là. Il dit, ah ouais, tu avais dit ça. Donc maintenant, je te prie. Basé sur ces promesses, j'ai écrit ceci. Ce n'est pas parce qu'une promesse divine est attaquée qu'elle sera annulée ou renversée. Tu peux choisir de l'abandonner ou de la préserver, voire de t'en servir en temps de guerre. Moi, une des choses que je me sers, c'est les promesses que Dieu a faites pour l'Église dans cette saison. Je le prends, j'ai dit, Seigneur, tu l'as dit. Et ce n'est pas parce qu'on a nos célébrations le samedi que la promesse est annulée. Karabaria soto, koroboria sata, barabaria soto, bababa. Tu l'as dit. Dieu n'a pas dit, ah là là, ah, sauf quand vous passerez le samedi, ça n'existera plus. Hein? Même, je ne sais pas, il y a des moments de pression, ok. Mais quel Dieu en prie, les amis? Quel est le Dieu en qui tu crois? Et parfois, le problème, ce n'est pas la promesse. Le problème, ce n'est même pas la personne qui a donné la promesse. Parce que souvent, quand les séquences sont là, la première chose, comment jette la force aux autres, oh, c'était pas de Dieu. Qu'est-ce que c'est pas de Dieu? Utilise la promesse comme une épée. C'est à toi de saisir la grâce. Et nous, on abandonne la grâce, on abandonne dans le sens d'abandonner la promesse, et quand ça s'accomplit pas, on dit, tu as vu, c'était un faux prophète. C'est une fausse parole. L'épée n'était pas bonne. Si l'Église vit une pression particulière, et que Céline en moi dit, c'est trop dur, hein. On abandonne. Après, on dit, c'est pas de Dieu, hein, que tu dises. Non. Tu as abandonné. Tu as quitté ta place. C'est pas la même chose. Je vous demande pas si vous m'aimez toujours. Dernier point, je termine avec ça. Il choisit dans l'opposition de célébrer par avance ce que Dieu va faire. Si tu as oublié tout ce que j'ai dit, faut pas l'oublier, réécoute quand même. Mais imaginons que dans un moment de, hein, tu as oublié tout. Je vais donner le truc qui fait que tu sais que tu es toujours à la place de Dieu. Le truc qui fait que tu sais que tu es à la place de Dieu, c'est que tu n'as pas oublié, enfin, la capacité de remercier Dieu pour ce que tu as ne t'a pas quitté. Tu es toujours là. Ah, tu vois Linda, ah, ça fait plaisir de te voir. Pas dans le sens flatterie, hein, comprenez. Mais tu es tellement émerveillé de sa présence. Oh, avec la semaine que tu as vécue, tu es là. Wow. Oh, ça fait du bien de voir de nouvelles personnes. Wow, c'est génial. Merci Seigneur. Un nouveau travail. Tu es là. Wow, la présence de Dieu ce dimanche. Wow, ça me fait du bien. Là, tu sais, il y a de fortes chances que tu sois toujours bien positionné. Quand tu commences à dire, ah, il n'y a rien qui marche. Ah, c'est nul. Tout est nul. Vous savez, les mots qu'on emploie toujours parfois, toujours, tu es toujours comme ça. Quand tu dis ça à ton conjoint, tu es toujours, ah, il y a de fortes chances qu'il y a un peu de l'eau dans le gaz. Hein. Tu es jamais content ou contente. Les mots-là, toujours ou jamais, qui ne nuancent pas. Vous comprenez? Quand tu es comme ça, il y a de fortes chances que tu n'es plus positionné. celui qui est positionné, cœur rempli de Dieu, de reconnaissance. Écoutez, Dieu a dit, gardez position. Restez là et vous allez voir. Josaphat. Écoutez, il y a quelqu'un, Lévite, je crois, qui se lève, il dit ceci. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judée, Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Juste avec les paroles, hein. Dieu n'a rien fait encore dans le concret. Et tous les Judéens, les habitants de Jérusalem, tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. En pleine menace, Dieu n'a rien fait encore. Il a juste dit, gardez position. Et ils font quoi? Ils tombent et ils adorent Dieu. Ah, qu'il y ait des adorateurs là, avant que je finisse, qui s'approchent et disent, malgré la pression, malgré la douleur, malgré les épreuves, malgré la maladie, je vais m'agenouiller, je vais crier, Seigneur, je t'adore. C'est ça! C'est ça un peuple qui garde la position. Les Lévites qui faisaient partie des Kéhatites, Coréites, se levèrent pour louer d'une voix très forte l'Éternel, le Dieu d'Israël. Waouh, Seigneur, mais tu n'as rien fait encore. Et regardez la fin, et je termine avec ça. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Ils gardent position. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit, écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance à ce prophète et vous réussirez. Le temps me manque. Vous lirez la suite. Vous me croirez ou croyez pas? Lirez la suite et vous verrez que Dieu a exécuté ce qu'il avait dit. Mais jusqu'à là, jusqu'à ce temps de louange, de célébration, Dieu n'a rien fait encore. C'est juste un peuple qui a cru ce que Dieu avait. Et c'est ça. Et quatre caractéristiques. Je simplifie par quatre mots. C'est quoi? Garder position. Continue d'obéir. Cherche Dieu. Crois Dieu. Célèbre Dieu. Parfois, il y a des moments, ça me revient, les C, les A. Là, c'est les C. Je vous donne les C de la conquête. Pour être des conquérants, c'est ça. Continue d'obéir ou choisis d'obéir. Cherche Dieu. Crois Dieu. Célèbre Dieu. Là, tu es positionné.